Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. Il est un fait avéré que la grande majorité des gens qui s'appellent chrétiens ne consacrent pas de temps pour étudier la Bible. En 2014, une enquête menée aux États-Unis par le groupe Barna a constaté que même si le nombre moyen de Bibles par domicile est de 4,7, seulement 37% des Américains lisent la Bible au moins une fois par semaine. Les chrétiens reconnaissent la Bible comme la parole de Dieu. Elle est un livre d'enseignement écrit sous l'inspiration de Dieu pour l'humanité. Elle a été utilisée par de grands chefs, même des rois, comme guide sur la manière de vivre et la façon de gouverner. Saviez-vous que la prophétie représente près d'un tiers du texte de la Bible? Grâce à ces passages, les Écritures ont prévu un grand nombre d'événements importants de l'histoire, longtemps avant qu'ils aient eu lieu. D'autres passages prophétiques décrivent clairement les événements qui auront lieu dans les années à venir. Donc, si nous ne consacrons pas le temps nécessaire pour connaître et pour comprendre la prophétie biblique, nous ne profitons pas d'une partie très importante de la parole de Dieu. En particulier, nous ne profitons pas d'une compréhension qui devrait servir à nous motiver et à nous renseigner à propos des événements en cours dans le monde autour de nous. En ce qui concerne la prophétie biblique, comment sait-on qu'elle est vraie? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour bien la comprendre? Comment pouvons-nous développer une meilleure compréhension de la prophétie biblique? Quels sont les avantages d'étudier la prophétie biblique aujourd'hui? Ces questions sont des questions courantes que les chrétiens se posent quand ils font face aux passages prophétiques de la Bible. Dans ce sermon, nous allons répondre à chacune de ces questions. En faisant ceci, soyons encouragés et inspirés dans notre quête de la connaissance biblique, en particulier dans le domaine de la prophétie biblique. Une première question. Comment sait-on que la prophétie biblique est vraie? Comment oserait-on dire que nous comprenons les prophéties de la Bible? Comment avoir une certaine confiance en notre compréhension des textes anciens et érudits? Comment soutenir cette conviction que la prophétie biblique reste une source fidèle et fiable de connaissances à propos des événements du passé et de l'avenir? Même si les Écritures elles-mêmes révèlent que ceux qui entendent la prophétie ne vont pas nécessairement la comprendre, nous nous souvenons que Joseph a reçu deux rêves prophétiques et distincts qu'il n'a pas compris. Les deux rêves révélaient son avenir en Égypte, mais quand il informa ses frères, ils se sont mis en colère au lieu de se réjouir. Encore un autre exemple frappant du sens caché de la prophétie se trouve dans le livre de Daniel. Le prophète lui-même a préservé une prophétie qu'il n'a pas comprise. Daniel chapitre 12. Daniel, reportons-nous, pour commencer aujourd'hui, au livre de Daniel, chapitre 12, et le verset 8. Il s'agit d'une prophétie qui serait comprise par d'autres plus tard, dans le temps de la fin. Daniel 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » De cet exemple, nous voyons qu'il peut y avoir quelques prophéties que nous comprenons mieux que d'autres. Nous voyons aussi que Dieu choisit le moment de révéler la signification de la prophétie à ses serviteurs. La bonne nouvelle, dans ce cas, c'est que Dieu a révélé de nombreuses prophéties à ses serviteurs. Et nous pouvons connaître ces sens aujourd'hui. Une grande partie de la prophétie biblique n'est plus un mystère pour ceux qui sont appelés par l'Éternel Dieu. La vie de Jésus-Christ a accompli et a apporté un sens à de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Le don de l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte était l'accomplissement d'une prophétie et a révélé le sens de plusieurs autres prophéties. Ce ne sont que quelques exemples de prophéties déjà accomplies. Tout à l'heure, nous allons discuter de certaines prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Il y a cependant quelques principes de base qui nous permettent d'avoir confiance dans la prophétie biblique, tout comme nous avons confiance dans le reste de la Bible, comme la parole de Dieu est de vérité. Examinons 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Et puis, nous allons voir quelques points à considérer au sujet de ces versets instructifs. 2 Pierre 1, et commençons avec le verset 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà quelques points à considérer de ces versets instructifs. Premier petit point, une lampe qui brille dans un lieu obscur. La Bible révèle la parole prophétique de Dieu. Dieu a conçu la prophétie biblique afin qu'elle brille comme une lumière, de sorte que nous ne sommes pas dans l'obscurité au sujet de ce qui va se passer dans le monde. Un deuxième petit point, les prophéties de la Bible ne sont pas le résultat de simples pensées ou impulsions humaines. Dieu a inspiré ses prophètes par son Saint-Esprit. Voici l'exemple de Jérémie qui montre l'inspiration accordée par l'Éternel. Jérémie 2 et verset 1. Jérémie 2 et verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 2. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables, et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Une troisième petite leçon, ou un troisième point sur les versets de Dieu Pierre. Il a dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Pour ce troisième point, nous voyons que la prophétie biblique n'est pas soumise à des ajouts ou des interprétations par l'homme. La Bible s'interprète elle-même grâce à l'inspiration de Dieu. Seul Dieu Tout-Puissant interprète et inspire la compréhension de la prophétie biblique. Ceux qui cherchent à la comprendre doivent obéir à la loi de Dieu et à ses commandements. Ils doivent chercher à comprendre et à se conformer à l'ensemble de sa parole, y compris son instruction sur la façon d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cette compréhension et cette mise en pratique dans son ensemble, nous permet de comprendre les passages contenant la prophétie biblique dans le cadre de toute la Bible. Vu que ce n'est pas notre rôle d'interpréter la prophétie biblique, comment pouvons-nous la comprendre? Cela nous amène à la deuxième question. Une deuxième question, qu'est-ce qu'il faut avoir pour bien comprendre la prophétie biblique? Voici plusieurs clés pour comprendre la prophétie biblique. Déjà, une première clé. Révérer Dieu et sa parole. Révérer Dieu et sa parole. La clé primaire à la compréhension de la prophétie biblique est de se rappeler que Dieu et sa parole, la Bible, sont saints. Ceci change notre comportement vis-à-vis sa parole, y compris ses prophètes ou ses prophéties. Reportons-nous maintenant en Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe 66 et le verset 1. Ésaïe 66 et le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Le roi David a écrit des psaumes qui nous rappellent la grande puissance de la parole de Dieu et comment nous devrions respecter ce pouvoir dans la crainte de Dieu. Comme Ésaïe a dit, la crainte de la parole de Dieu, la crainte de cette vérité qui nous révèle. Reportons-nous maintenant au psaume 33, psaume 33, pour voir ce rappel de la grande puissance de l'Éternel et la parole de Dieu. Psaume 33 et le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Et puis au psaume 119, puisque nous sommes dans les psaumes, psaume 119, et le verset 160. Le verset 160 de psaume 119. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Ici, on voit quelques exemples de la crainte de la parole de Dieu. Quand on néglige Dieu et on est méchant, cette voie ne conduit pas à la compréhension. Daniel, chapitre 12 et verset 10. Daniel, chapitre 12 et le verset 10. En parlant de ce comportement, Daniel 12 et verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. L'intelligence ici serait mieux traduite par le mot sagesse. Sagesse. L'idée, c'est que ceux qui poursuivent la bonne voie, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, auront une meilleure compréhension, auront la possibilité de comprendre la vérité des prophéties bibliques. Passons maintenant à une deuxième clé. Une deuxième clé. Permettons à la Bible de s'interpréter elle-même. Permettons à la Bible de s'interpréter elle-même. En lisant l'interprétation de la Bible, nous avons la possibilité de connaître le sens des prophéties bibliques. Nous devons nous rendre compte que certains des passages de la Bible ne sont pas ou ne sont que des pièces d'un grand puzzle. On peut y penser comme cela. En mettant soigneusement ensemble les morceaux avec l'aide de Dieu, nous pouvons comprendre le sens. Des fois, c'est petit à petit, bien sûr. Il ne faut pas prendre une seule pièce et puis inventer le reste du puzzle nous-mêmes. Si les autres pièces du puzzle ne sont pas dans la parole de Dieu, cela veut dire que la prophétie n'a pas encore été complètement révélée. Il y a bien sûr des choses qui ne sont pas révélées, qui vont arriver. Soyons patients aujourd'hui et demandons à Dieu de nous révéler la signification pour que nous puissions apprendre et croître. Ésaïe chapitre 28 et le verset 10. Encore une fois, c'est l'idée d'être en train de construire quelque chose, en train de faire des petits pas. Petit à petit, nous avons une compréhension meilleure. Ésaïe 28 et le verset 10. Car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Et c'est bien en utilisant la Bible dans son ensemble que nous arrivons à comprendre ces prophéties bibliques, petit à petit, et en utilisant des exemples de différentes parties de la Bible. Nous ne prenons pas, par exemple, un verset qui semble contredire d'autres versets, et nous ne le mettons pas au-dessus des autres versets. Nous comparons les vérités, les versets, et nous arrivons à une compréhension meilleure du sujet. C'est la même chose pour la prophétie biblique. Une troisième clé, maintenant, passons à une troisième clé. Continuons d'apprendre et de nous souvenir du symbolisme biblique. Continuons d'apprendre et de nous souvenir du symbolisme biblique. L'étude du symbolisme biblique est l'une des études les plus utiles à faire pour nous aider à approfondir notre compréhension de la prophétie biblique. Nous apprenons à reconnaître que parfois la Bible parle littéralement et parfois les images sont symboliques. Par exemple, un symbole clairement défini et employé dans les épîtres de Paul, c'est celui d'une femme qui symbolise l'Église. Reportons-nous maintenant en Éphèse. Éphésiens chapitre 5. Reportons-nous en Éphésiens chapitre 5. et le verset 25. Nous allons, avec ces quelques versets, faire ce que je disais tout à l'heure, prendre un petit morceau d'un puzzle et construire quelque chose, ou voir petit à petit la signification profonde qui vient de la compréhension du symbolisme biblique. Le verset 25, Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et puis, plus tard, au verset 32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Remarquons au verset 27, qui mentionne que la véritable Église est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette explication, le lien entre l'Église et Christ, est très important. Cette explication nous aide à comprendre Apocalypse chapitre 19 et verset 7. Apocalypse 19 et le verset 7. Apocalypse 19 et le verset 7 qui souligne que cette femme se prépare actuellement. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. La femme apte à être appelée l'épouse du Christ est bien sûr une vierge chaste. Par conséquent, il est clair que l'Église de Dieu est décrite comme une femme pure qui épousera Christ à son retour. Nous pouvons aller encore plus loin en utilisant cette compréhension pour mieux comprendre l'identité de la femme d'Apocalypse 17. Apocalypse 17, c'est pas la même sorte de femme, mais c'est quand même une image qui est en parallèle avec la compréhension que nous venons de discuter. Apocalypse 17 et le verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Et puis au verset 5, elle est appelée la mère des prostituées. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Beaucoup de mauvaises choses sortent de cette femme prostituée, la mère des prostituées. Encore un symbole qui est clairement expliqué dans la Bible est utilisé dans la prophétie est celui de l'adultère qui représente l'idolâtrie. Encore une fois, ces exemples en fait reviennent ensemble et dans l'ensemble de ces exemples, nous arrivons à une compréhension meilleure. Ce sombre tableau d'adultère s'inspire de prostituées qui leurrent des hommes à commettre l'adultère. En mettant ensemble ces symboles, nous voyons que ceci représente les fausses églises qui incitent les gens à pratiquer l'idolâtrie, la fausse religion. Nous pouvons comprendre qu'il y a beaucoup de fausses églises se faisant passer pour des églises de Christ, mais il n'y a qu'une seule vraie église. C'est l'église de Dieu, une église qui connaît la vérité et qui met en place la vérité dans toutes les activités. Ceci n'est qu'un exemple de comment la compréhension des symboles peut approfondir notre compréhension de la prophétie. Une quatrième clé maintenant. Étudions les nations identifiées dans la Bible et leurs identités modernes. Étudions les nations ou les peuples identifiés dans la Bible et leurs identités modernes. La plupart des gens ne saisissent pas le sens de nombreuses prophéties bibliques, en particulier celles concernant diverses nations. Lorsque nous commençons à associer les nations et les régions dans la Bible avec des nations modernes, notre compréhension augmente. Un exemple d'une identité nationale très utile à connaître est celui d'Éphraïm et de Manassé. Après une étude approfondie des promesses données à Abraham, qui ont été ensuite transmises de père en fils jusqu'à ces deux garçons, nous pouvons établir qu'ils ont été les ancêtres des pays anglophones ou anglo-saxons. Cela nous aide, entre autres, à comprendre des prophéties futures concernant les punitions qui doivent tomber sur Jacob. Jacob, autrement dit, Israël. Passons maintenant à une troisième question. Comment pouvons-nous développer une meilleure compréhension de la prophétie biblique? Nous nous souvenons que Daniel 12 et verset 10, que nous venons de lire tout à l'heure, ne parle pas seulement de la conduite des méchants, mais aussi la compréhension de ceux qui auront l'intelligence, ou, autrement dit, la sagesse. Allons-nous devenir sages? Allons-nous croître dans notre compréhension de la prophétie biblique? Nous demandons à Dieu de nous accorder la sagesse. Il nous enseigne la sagesse et développe son caractère en nous, et il le fait de plusieurs façons. Parfois, il nous donne des conseils ou des conseillers ou des enseignants qui nous transmettent la sagesse. Parfois, il nous permet de passer par certaines épreuves pour nous apprendre d'être sages dans nos choix. Les conséquences de certains de nos mauvais choix peuvent servir comme instruction, mais dans ce cas, elle est, bien sûr, plus pénible. C'est beaucoup mieux d'apprendre sans faire ces mauvais choix. Pour croître et pour mieux comprendre, nous grandissons en sagesse et nous pouvons également prendre des mesures concrètes afin de croître dans nos compréhensions ou notre compréhension de la prophétie biblique. Regardons une méthode simple pour étudier la prophétie, étape par étape. Avant d'aller plus loin, considérons le regroupement naturel de deux types de prophéties. Premier groupe, des prophéties déjà accomplies dans le passé, et le deuxième groupe, des prophéties pas encore accomplies ou avec un double ou triple accomplissement. Notre approche de l'étude de chacun de ces types de prophéties sera légèrement différente. Tout d'abord, comment approchons-nous l'étude des prophéties déjà accomplies dans le passé? Nous allons passer très vite par quelques étapes assez simple, mais assez utile aussi à mettre en pratique. Un premier petit point, trouver et lire les prophéties de la Bible. C'est très simple, mais presque un tiers de la Bible, comme nous venons de dire tout à l'heure, consiste de prophéties. Donc, nous trouvons et nous lisons, nous nous familiarisons avec ces prophéties. Un exemple à noter d'une prophétie déjà accomplie, dans peut-être votre étude biblique personnelle, c'est l'exemple d'Ésaïe 53. Juste pour prendre note, Ésaïe 53 représente un passage qui décrit une partie de la vie de Jésus-Christ. Deuxième étape, lisez et ou lisons et l'accomplissement de ces prophéties dans l'histoire. Pour beaucoup de ces prophéties, nous pouvons trouver les liens qui existent entre la Bible et les livres d'histoire, ou même des manuels bibliques, comme le manuel biblique de Haley, ou même des commentaires bibliques. Mais des fois, il faut faire attention de ne pas s'appuyer sur n'importe quel commentaire. Mais il y a plein de commentaires qui sont utiles, et nous pouvons lire l'accomplissement, nous pouvons approfondir notre compréhension de ce qui s'est passé dans l'histoire et qui a été préservé en termes d'histoire à part de la Bible. Et nous pouvons faire le lien entre ces deux aspects. Troisième petite étape, prouver que ces prophéties étaient écrites dans la Bible bien avant leur accomplissement dans l'histoire. Maintenant, comment pouvons-nous étudier des prophéties pas encore accomplies ou ayant un double accomplissement? Comment pouvons-nous étudier ces prophéties qui n'ont pas déjà été, qui ne sont pas accomplies encore? Encore une fois, il faut comprendre que Dieu révèle la prophétie à travers ses vrais serviteurs. Il y a des exemples dans les évangiles et dans le Nouveau Testament qui parlent de ceux qui vont venir en termes de faux prophètes. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. On peut se demander, c'est qui un serviteur, un vrai serviteur de Dieu? Et bien sûr, la Bible nous avertit. Il faut faire attention. 1 Jean, chapitre 4, et le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est quand même un avertissement. Mais c'est à nous de tester ou d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Les gens qui parlent de la prophétie, les gens qui instruisent, vont montrer ou pas certains fruits spirituels. Et avec la prière, la réflexion, l'observation, nous pouvons arriver à mieux savoir, à éprouver les esprits et demander à Dieu si ces prophéties sont vraies, et aussi cette interprétation plutôt est vraie. Deuxièmement, apprenez les clés de la prophétie biblique, les clés que nous avons discuté tout à l'heure, et encore une fois, lire les prophéties bibliques, tout comme les prophéties déjà accomplies. Et finalement, une dernière étape, lire les accomplissements aux informations et les voir peut-être même à la télévision. Nous allons voir l'accomplissement de certaines choses ici, dans ce temps de la fin. Et quand nous approchons la fin, le monde autour de nous représenterait ou deviendrait de plus en plus comme le monde décrit dans les prophéties bibliques qui parlent du temps de la fin. Gardons ces deux méthodes en mémoire pour les deux types de prophéties différentes. Ceci peut nous aider à aborder l'étude de la prophétie sans inquiétude. Surtout, rappelons-nous qu'étudier la Bible régulièrement est le moyen le plus efficace pour approfondir notre compréhension des Écritures. Passons maintenant à une quatrième question et dernière question. Quels sont les avantages d'étudier la prophétie biblique aujourd'hui? Quels sont les avantages pour nous? Quand nous pensons à l'investissement et à l'effort qu'il faut pour étudier la prophétie biblique et pour approfondir notre compréhension de celle-ci, de temps en temps, nous devons nous rappeler les avantages d'étudier et de développer une bonne compréhension de la prophétie biblique. À quoi sert-elle? À quoi sert cette compréhension? Il y a quand même des bénéfices pour nous aujourd'hui. Déjà, un bénéfice ou une chose, en termes d'avantage, un avantage, c'est un avertissement. La prophétie peut servir comme avertissement, comme un réveil du sommeil. Rapportons-nous maintenant en Jérémie chapitre 30. Jérémie 30 et le verset 4. Jérémie 30 et le verset 4. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Et puis, au verset 7, « Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessous ton cou. Je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. » Et puis, en Lévitique, passons maintenant en Lévitique chapitre 26. Ces paroles de Jérémie servent comme un avertissement que Dieu va prononcer, il a déjà prononcé, il va accomplir un jugement sur ceux qui sont contre lui, contre sa façon de vivre, contre ses instructions et sa loi. Et c'était la même chose pour la nation d'Israël. Ce que Dieu fera si l'Israël se détourne est décrit ici, en Lévitique chapitre 26, Lévitique 26 et le verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a une horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Il est très important pour nous de nous rappeler que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants des événements importants qui vont bientôt secourir la terre. Il veut que nous soyons prêts. Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas prêts. La plupart sont tout à fait insensibles aux événements qui se déroulent dans le monde en général, et encore moins à leur signification prophétique. Pour la plupart, il faudra des événements vraiment catastrophiques et vertigineux pour les réveiller de leur sommeil spirituel. La prophétie biblique nous donne déjà, nous, qui comprennent, un avertissement de ne pas nous endormir, de rester vigilants, de nous rapprocher de Dieu pour devenir une partie de l'Israël spirituel. Dieu fera miséricorde à ceux qui sont siens, les siens. Alors, même que le monde subira la calamité. Puis Dieu se souviendra de son peuple Israël et Juda. Nous avons déjà cette prophétie en Zacharie. Zacharie chapitre 10, reportons-nous. Le fait que Dieu se souviendra de son peuple, c'est une promesse ferme et sûre qui nous donne de l'espoir. Zacharie chapitre 10 et le verset 6. Et je vais renforcer la maison de Juda, et je délivrerai la maison de Joseph, et je les ramènerai de les placer, car je fais miséricorde sur eux, et ils seront comme si je ne l'avais pas jeté. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Donc déjà, ceux qui étudient et qui comprennent la prophétie biblique sont avertis. Je sais que quand je commençais à vraiment lire la Bible, à vraiment lire ces prophéties, quand j'avais peut-être 19 ans, moi, j'étais vraiment averti, ça m'a réveillé au fait que il y aura un vrai jugement qui est bien décrit dans la Bible et que nous voyons l'accomplissement de certaines choses qui nous indiquent que la fin arrive et que le retour de Jésus-Christ arrivera bientôt. Donc passons maintenant à un deuxième avantage de cette étude de la prophétie biblique. Un deuxième avantage, c'est une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Si on souhaite apprendre à connaître Dieu, comment Dieu se révèle-t-il à l'humanité aujourd'hui? C'est vrai qu'il est nécessaire que Dieu se révèle à l'humanité pour que l'humanité le connaisse. Dans le passé, il se révélait à travers ses saints prophètes. Aujourd'hui, il révèle des événements futurs à travers les prophètes de la Bible et les prophéties de la Bible. Il éclaire ses vrais serviteurs afin qu'ils puissent diffuser les nouvelles des événements à venir. Cela nous amène à un autre avantage. Un troisième avantage, un avantage d'étudier la prophétie biblique, c'est l'encouragement. Bien sûr, l'encouragement, le développement de la foi. Nous voyons que même si de mauvaises choses sont prophétisées d'avoir lieu aujourd'hui ou à l'avenir, nous pouvons encore être encouragés de savoir que le retour de Jésus-Christ apportera la paix au monde, une paix que l'humanité n'a pas connue depuis le jardin d'Éden. Quand nous étudions la prophétie, nous nous informons sur les événements qui auront lieu, et nous comprenons aussi que Dieu permet que ces événements aient lieu pour le bien. L'intervention de Dieu à travers ces événements prophétiques commencera à changer le monde et à préparer la terre et ses habitants pour 1000 ans de paix sous le règne de Jésus-Christ. Donc voilà, nous comprenons par les prophéties bibliques qu'il y a un plan et que Dieu est en train d'accomplir ce plan petit à petit. Et que ces choses qui semblent très mauvaises, la souffrance, la mort, qui semblent très mauvaises aujourd'hui, sont pour un but. Passons maintenant à un quatrième avantage. Un quatrième avantage d'étudier la prophétie biblique, c'est la motivation au changement. Bien sûr, nous sommes déjà appelés à changer, à repentir, à changer de voie et à suivre l'Éternel. Et la lecture et la compréhension de la prophétie biblique devraient nous motiver à changer. Nous avons besoin d'une motivation pour changer notre vie et pour mieux comprendre sur quoi se focaliser. Luc chapitre 21, ceci est lié à notre étude, notre compréhension de la prophétie biblique. L'évangile de Luc est chapitre 21 et le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ceux qui étudient, comprennent et croient à la prophétie biblique peuvent bien réagir quand les événements mondiaux ont lieu. Ils peuvent rester motivés à se repentir, à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Notre désir reste d'avoir part à la première résurrection, d'être les prémices, et de nous tenir debout devant Christ à son retour. C'est très motivant, le fait que nous devons changer, nous devons chercher à l'intérieur, à notre profond, et nous devrions chercher à changer, à devenir de plus en plus comme Dieu, comme Jésus-Christ a vécu sur la terre. Même ceux qui entendent aujourd'hui, même si que ceux qui entendent les prophéties bibliques ou la parole de Dieu aujourd'hui, qui ne croient pas, ressentiront un jour la motivation de changer. Toutes ces choses qui se passent autour de nous sont, encore une fois, pour un but. Ils sont pour un but parce que même ceux qui ne sont pas appelés aujourd'hui, ils auront la mémoire de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ils vont souvenir quand ils auront l'opportunité de changer vraiment leur vie. Et c'est Dieu le Père qui décide, qui choisit ceux qu'il voudrait appeler aujourd'hui. Lorsque ces événements auront lieu tout autour de nous et dans l'avenir, ce qui est sûr, les nations se souviendront que nous les avions avertis d'avance. Nous avons un rôle à jouer aussi, prêcher l'Évangile. Et ces nations reviendront en pleurant et en se repentant. Elles commenceront à chercher Dieu de tout leur cœur. Reportons-nous maintenant à Jérémie encore une fois, Jérémie chapitre 31. Jérémie 31 et le verset 7. Levez-vous, montant à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Ici, nous avons un passage plein de joie. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre, parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Très intéressant que ces gens reviendront en pleurant. Ils auront quelque chose dans la mémoire, quelque chose, peut-être la vie passée, les choses qui se passent autour d'eux, les choses vécues dans ce monde plein de terreur, plein de souffrance. Et ils sauront, quand ils viendront envers l'Éternel, que ses souffrances auront fin. Alors, pour terminer aujourd'hui, rappelons-nous que Dieu nous a appelés à une vie d'apprentissage et de croissance. Soyons prêts à permettre à la parole de Dieu de travailler en nous et à effectuer un changement en nous. La prophétie biblique est un élément important de la parole de Dieu, sa révélation à l'humanité. Je souhaite que ce sermon serve de rappel de l'importance et les avantages pour notre compréhension de la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous avons abordé des questions courantes. Comment sait-on que la prophétie biblique est vraie? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour bien la comprendre? Comment pouvons-nous développer une meilleure compréhension de la prophétie biblique? Et quels sont les avantages d'étudier la prophétie biblique aujourd'hui? Alors, j'espère que vous avez vu plein d'avantages et que vous allez aussi trouver encore d'autres avantages en étudiant la prophétie biblique. Vous trouverez probablement que lorsque vous étudierez la prophétie biblique de façon poussée, vous aurez encore plus de questions. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà rencontré, mais c'est une bonne chose. Donc, bon courage dans votre étude de la prophétie biblique.